Bonjour, bonjour. Bienvenue ici sur le salon Solutions Bas Carbone, jumelé avec le salon BIM World. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà là hier, mais en tout cas, je vois qu'on commence à remplir la salle et hier aussi les salles de conférence, en tout cas celles qui étaient sous ma responsabilité sur l'énergie et le bas carbone, étaient toutes pleines. Je ne sais pas si c'est moi qu'on vient voir, mais pas sûr. Donc on va passer 45 minutes ensemble pour parler de méthodes et d'outils pour les bilans carbone et les audits environnementaux. Donc ça complète hein, l'ensemble d'un cycle de conférences. Vous faites peut-être un cycle de conférences sur ce salon. Hier, on a parlé pas mal de réglementation 2020, mais aussi d'indicateurs carbone pour les matériaux. Donc là, on complète un peu le spectre d'informations sur le carbone qui est devenu un axe prioritaire dans les politiques publiques et on comprend pourquoi. Et donc l'idée ce matin, c'est de parler de différentes échelles. On va être un peu sur le bâtiment, mais finalement assez peu. Et on va changer d'échelle, vous allez voir ça. On va parler de quartier, on va parler d'infrastructure, on va parler de mobilité liée aux infrastructures. Et tout ça grâce à mes trois intervenants que vous voyez là, qui sont impatients de prendre la parole. Et je vais les laisser rapidement se présenter en commençant dans l'ordre de présentation, justement. Donc ça commence par Michel Salem-Sermanet.
Oui, merci. Outre le fait que je suis un grand supporter de Liverpool, donc je dirige l'Institut de recherche et développement et d'innovation Efficacity, qui est dédié à la transition énergétique des villes.
Thibaut Gastier.
Oui, bonjour. Thibaut Gastier, je suis BIM manager chez Systra et donc on va présenter un outil maison.
Et Eric Loquet.
Oui, bonjour à tous. Donc je suis expert en tracé routier. Donc généraliste et responsable développement durable dans la business unit ville-route mobilité de Aegis. Merci.
Merci. Alors, on va démarrer tout de suite à l'échelle donc du quartier. Impact énergie, impact carbone, impact environnemental du quartier grâce aux travaux qu'a pu mener Efficacity, mais pas Efficacity tout seul d'ailleurs, mais en tout cas un outil qu'il gère qui s'appelle Urban Print. Et c'est Michel Salem-Sermanet qui va nous en parler tout de suite. Et je vais lancer ta présentation. Tu peux démarrer. Hein.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler de quelque chose de très important qui est la façon dont on peut atténuer l'empreinte carbone des villes. Alors, pourquoi c'est important? D'abord parce qu'il y a urgence à réduire l'empreinte carbone en général, au niveau de la France, au niveau du monde. Le GIEC, il y a quelques jours, a dit que l'on avait 3 ans pour inverser la courbe. Et pourquoi c'est important de réduire l'empreinte carbone des villes? Parce qu'en France, et c'est le cas de beaucoup de pays, les villes représentent 2/3. 2/3 de l'empreinte carbone nationale. Ça se passe dans les villes. Et donc, c'est très important de mettre l'accent au niveau des villes sur les projets urbains. Donc, tous les territoires urbains ne sont pas des territoires de projet, mais un grand nombre le sont. Et donc, ce qu'on appelle un projet urbain, c'est à chaque fois que vous voyez des grues quelque part, c'est quand on investit à l'échelle d'un quartier, pas à l'échelle d'un bâtiment, mais à l'échelle de plusieurs îlots ou d'un quartier, que ça soit en construction neuve, en rénovation, ou quand on fait des projets mixtes. Et donc, pour répondre à ce besoin, un certain nombre d'acteurs, Efficacity, le CSTB, mais une quinzaine d'acteurs, se sont rassemblés il y a 3-4 ans sous l'égide de l'ADEME, ont travaillé dur, ont investi de nombreux millions pour mettre au point un outil qui permet de mesurer l'empreinte carbone d'un projet urbain. Alors je vais vous expliquer en deux mots pourquoi c'est fondamental. Et je vais faire une parabole, c'est quand vous vous sentez un petit peu mal. Vous pensez être un peu fébrile et depuis 2 ans, on sait que c'est bien de surveiller ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne dites pas comment je me sens. Non, vous prenez votre température et vous savez. Avant de sortir le matin, pour savoir s'il fait chaud ou froid, vous regardez le thermomètre. C'est la même chose. S'il y a une seule chose à retenir, c'est qu'on ne peut plus faire de projet urbain si on est sérieux au sujet du carbone sans avoir un thermomètre de l'impact carbone des projets. Jusqu'à maintenant, on n'en avait pas. Moi, j'ai été aménageur pendant des années, on faisait de bons projets, mais pendant les phases de conception, on n'avait aucune idée de l'impact carbone des projets. Il faut arrêter ça. Maintenant que ce thermomètre existe, il faut l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est ce thermomètre? Il s'appelle Urban Print. Pourquoi c'est important? Parce que, bon, d'abord, l'urgence climatique, vous la connaissez. Je rappelle qu'au niveau français, hein, l'empreinte, c'est 10 tonnes équivalent CO2 par habitant et qu'il faut baisser de moitié à peu près pour être à 6 tonnes au maximum d'ici 2030 et baisser jusqu'à 2 tonnes en 2050. Pour faire ça, comme on l'a vu, la ville joue un rôle fondamental et les projets urbains, pour moitié... Donc c'est ce que vous voyez en rouge, hein. Je ne vais pas décrire tout ce qui constitue ces 10 tonnes aujourd'hui et 2 tonnes en 2050, mais pour moitié, c'est l'aménagement du projet, hein, le dur si on peut dire, ce qui est à la main des collectivités de façon directe, qui constitue la moitié de cette empreinte. Et donc on a des leviers très importants pour agir sur la construction, les matériaux, l'énergie, la mobilité, l'eau, les déchets, les espaces publics, la façon dont on réalise le chantier, les puits de carbone, etc. Bien sûr, l'autre moitié dépend des comportements des usagers. Hein. Les trajets longue distance, l'alimentation, les achats de biens. D'ailleurs, même là, la collectivité a un rôle à jouer par des mesures plus incitatives. Et donc, l'outil qui a été conçu, l'outil Urban Print, permet de mesurer l'ensemble en faisant un focus sur cette partie qu'on appelle les leviers aménageurs sur lesquels on a un impact direct, mais aussi sur les leviers usagers sur lesquels de plus en plus les acteurs locaux vont avoir un impact indirect. Eh bien, cet outil, d'abord, je précise, il est simple d'utilisation. Et l'État nous demande aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais Efficacity a été créé il y a presque une dizaine d'années par l'État et tout un tas d'acteurs, et donc en particulier l'État nous surveille de près et nous demande aujourd'hui, on a reçu une belle lettre la semaine dernière par Bruno Bonnel, hein, le patron du SGPI, hein, vous savez, c'est lui qui pilote France 2030, donc il a beaucoup de milliards, il nous a fait une belle lettre en nous disant « Maintenant, vous devez diffuser vos outils le plus rapidement possible sur tous les territoires compte tenu de l'impact qu'ils vont avoir. » L'impact, c'est permettre à chaque décision qui est prise pendant les phases de conception de pouvoir mesurer l'impact de cette décision en termes énergie carbone. Et nous le faisons de manière simple. Et donc cet outil Urban Print permet de faire trois choses. La première chose, c'est d'évaluer vraiment le score carbone de votre projet. Donc quand vous allez faire les courses, hein, vous connaissez Nutri-Score pour l'alimentation, eh bien c'est la même chose. On ne peut plus se permettre de ne pas savoir quelle est la réalité de l'impact carbone ou énergie carbone d'un projet. Et donc, on a inventé, avec l'ADEME et tout un tas d'acteurs, et le CSTB en particulier, on a inventé le score carbone. On peut calculer aussi le score énergie et beaucoup d'indicateurs environnementaux, une vingtaine, mais en particulier le score carbone. Et comment on le calcule? Et là, c'est fondamental. On ne se contente pas de calculer en valeur absolue, l'impact du projet, hein, en nombre de tonnes équivalent CO2 par habitant et par an, parce que ça ne parle pas. On compare ce niveau d'émission au projet de référence, ce qui permet de savoir je suis meilleur de combien. Je suis vert, tout le monde est vert, tout le monde est plus vert que vert, comme disait Coluche, mais de combien? Si vous ne quantifiez pas ça, ça ne sert à rien. Eh bien, tout le travail a consisté, en particulier, à se mettre d'accord avec toute la profession sur c'est quoi le projet de référence. Et alors voilà, c'est un scoop, le projet de référence, contrairement au bâtiment, hein, où c'est plus simple, on peut savoir bah, en moyenne un bâtiment, c'est combien. On ne peut pas, un quartier, c'est trop complexe. Et donc le projet de référence à l'échelle d'un quartier, c'est la même programmation au même endroit, avec la même forme urbaine, mais sans aucun effort d'atténuation de l'impact carbone. Donc soit vous êtes au minimum réglementaire, soit on prend comme hypothèse que vous utilisez les pratiques courantes, mais le minimum syndical. Ce qui est important, c'est que la méthode pour définir ce projet de référence, c'est l'outil Urban Print qu'il a à l'intérieur, et c'est l'outil Urban Print qui définit le projet de référence, et c'est pas l'utilisateur, parce que sinon chacun a sa méthode et chacun va dire ah ben moi je suis 30%, 33% meilleur que le projet de référence, je suis très bon. Ça n'a plus aucun sens, on ne peut plus faire ça. Donc maintenant il existe un thermomètre officiel avec Urban Print et la méthode ADEM que l'on a aussi élaborée à l'occasion, qui s'appelle la méthode quartier énergie carbone, qui est la méthode officielle, et donc l'outil de référence maintenant calcule le projet de référence. C'est ce qu'on est en train de faire par exemple pour le village olympique pour la Solideo Paris 2024. Donc on regarde de manière précise le même projet, même endroit, même formule, même programmation, on est combien meilleur, et on sera très bon pour le village olympique, mais on aura vraiment la vérité de l'empreinte carbone. Deuxième chose que fait l'outil, c'est que non seulement il vous dit vous êtes plus ou moins bon, voilà, admettons un score carbone de 25%, mais surtout il vous dit comment vous améliorer pour avoir la meilleure l'empreinte carbone minimale. Et donc vous voyez, c'est extrêmement facile d'utilisation. Vous appuyez sur le bouton, l'outil compare des centaines ou des milliers de combinaisons possibles sur tous les leviers possibles, hein, dont j'ai parlé. Hein. On parle à la fois de matérialité, des bâtiments, des espaces publics, d'énergie, d'eau, déchets, de mobilité, etc. Et donc l'outil vous dit, par exemple, dans ce cas-là, vous avez déjà un projet qui est pas mal en bleu par rapport au projet de référence. Donc sur l'énergie, sur les matériaux de construction, vous avez déjà fait des efforts. Et vous pouvez encore minimiser votre empreinte carbone en travaillant sur les matériaux de construction et les déchets. Et le reste, c'est anecdotique. Donc, vous oubliez, concentrez l'effort sur la matérialité du projet et les déchets. Et en fait, vous voyez, ce n'est pas toujours intuitif. Même le meilleur expert ne pourra pas vous dire, voilà, ce projet dans ce contexte, voilà ce qu'on peut faire. Eh bien non, c'est difficile. Cet outil vous le dit après avoir comparé, comme je vous l'ai dit, des centaines ou des milliers de combinaisons possibles. Et ça vous indique également, vous êtes à combien du projet optimal. Voilà, déjà là, vous êtes à 80%. Vous pouvez encore aller plus loin. Troisième chose. Donc là, vous voyez, l'outil génère tout un tas de solutions.
Sinon, on va être dans les prolongations, là.
Tout à fait. Voilà. Et Liverpool marque souvent en prolongation, mais je ne vais pas prendre ce risque. Voilà. La dernière chose, c'est que vous pouvez aussi, à la main, comparer tout un tas de variantes dans tous les domaines que j'ai cités. Je termine en disant que l'objectif maintenant, parce qu'on est sérieux, il faut déployer à grande échelle cet outil pour qu'enfin, on fasse ce qui est évident, c'est de prendre en compte l'impact carbone, comme je l'ai dit, de toutes les décisions que l'on prend en phase de conception. Donc cet outil Urban Print a déjà été utilisé sur une trentaine de projets l'année dernière. On a lancé récemment un AMI avec le ministère de la Transition écologique et l'ADEME, et on a sélectionné 30 écoquartiers qui vont utiliser à court terme, vous voyez, dans toute la France, l'outil Urban Print. Pourquoi ? Pour montrer l'exemple. Et rapidement, ça va être obligatoire pour avoir le label éco-quartier d'utiliser ce type d'outil. Et on souhaite évidemment que le plus rapidement possible, tous les projets urbains dans toute la France et au-delà utilisent ce thermomètre de l'empreinte carbone pour faire les meilleurs projets possibles, pour avoir la possibilité de prendre les décisions en toute connaissance de cause. Merci.
Merci Michel. Alors, vous pouvez vous noter des questions, on y répondra tout à l'heure, hein, en fin de nos trois présentations et trois interventions. Donc, vous voyez qu'on a bien besoin d'outils qui permettent de réfléchir au-delà du bâtiment et d'avoir une vision plus, on va dire, systémique à l'échelle du quartier. Et cet outil Urban Print est parfait pour cela. On va passer maintenant à la présentation donc, de Thibaut Gasnier, donc du groupe Systra, qui va nous parler des choses que les Parisiens connaissent bien et qui vont connaître encore plus, c'est le projet Atmo et la ligne 15 Est et 15 Ouest qui est en projet. Alors, moi, je suis pas parisien, je sais pas du tout si c'est déjà commencé ou si ça pas encore. Voilà, c'est donc un projet et notamment de pouvoir analyser les impacts carbone sur ce projet. Donc, je laisse la parole à Thibaut. Je vais lancer ta présentation. Tu peux démarrer.
Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter plutôt un cas concret. En fait, c'est le Grand Paris fait un effort pour maîtriser son impact carbone. Et dans ce cadre, Systra les a accompagnés dans cette réflexion. Donc, je me suis déjà présenté, donc on va passer. En fait, horizon 2030, la ligne 15 va se terminer. Donc, il y a un premier marché qu'on voit au sud, qui est la ligne du T2, qui, elle, est déjà en cours de construction. Et donc, le projet ATMO, c'est un projet de conception-réalisation qui part de Champigny-Centre, qui va jusqu'à Pont-de-Sèvres, en passant par le Saint-Denis-Pleyel, qui est la séparation entre la partie 15-Ouest et la partie 15-Est. On parle de 23 gares, 43 km de tunnels à la louche. Et donc, c'est le plus grand chantier d'Europe. Et donc, nécessairement, pour l'Île-de-France, mais même pour la France, c'est très émissif en termes de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, en fait, la SGP, la Société du Grand Paris, avait donc déjà fait de premières études qui se sont arrêtées courant 2018-2019. Il existait déjà une première conception assez avancée puisqu'on était à un stade d'AVP ou de pro suivant les moments. Avec un premier jet de bilan carbone, mais qui avait été fait sur d'anciennes hypothèses, la SGP a donc souhaité revoir un peu sa copie pour être plus ambitieux en termes de carbone. Et Sistra a participé à la définition des objectifs, mais plutôt à fournir des billes pour alimenter la réflexion de la Société du Grand Paris dans ce cadre. Donc l'objectif, c'était de réinterroger les chiffres. Je ne vais pas vous présenter trop de chiffres parce qu'on est dans des procédures de dialogue qui sont en cours. Donc nécessairement, c'est un peu, on peut pas dire ce qu'on veut tout de suite, mais on va présenter plutôt la démarche et la façon dont fonctionne l'outil qui est donc Carbon Tracker, un outil qu'on a développé chez Sistra. On s'appuie en fait sur les études précédentes, et en particulier, on va suivre ici la vie des parois moulées qu'on va voir qui sont au sein d'un ouvrage d'entonnement, qui sont un gros poste en termes de poids carbone sur ce type de projet. Donc assez simplement, en fait, pour faire une analyse carbone sur la base des maquettes BIM, ça se décompose en deux parties, la partie maquette proprement dite et la partie outil d'analyse carbone. Donc, côté maquette, il faut avoir évidemment une maquette, et cette maquette, il faut que les informations soient rangées. Pour ranger les informations, c'est assez simple, on range, on parle de quoi on parle, c'est ce qu'on va appeler la classification, et où est-ce que c'est situé. C'est plutôt géographique, ça va être par ouvrage ou plus précis. En l'occurrence, c'était par ouvrage, donc ce sont des assets. Ici, on est donc dans un premier jet où, sur la base des maquettes, on vient renseigner ces classifications avec, vous voyez, un magnifique code couleur, avec les radiers, les bétons de propreté, les recharges. Donc, puisqu'on va s'occuper de la paroi moulée, on voit c'est tout le pourtour en rose. Hein. Donc, c'est ça qu'on va suivre. Ça, c'est plutôt du contrôle métier, hein. C'est de la saisie, et puis c'est de la vérification par... c'est de la vérification métier. En fait, il faut s'assurer que les informations, les objets sont bien renseignés. Une fois qu'on a renseigné ça, on va passer tout ça. Donc, on a des maquettes sources qu'on va passer dans l'outil de Carbon Tracker, en l'occurrence, mais dans une plateforme qui va nous permettre de refaire un tour de vérification. Cette fois, on va s'assurer que, donc, c'est ce qu'on voit en très original, hein, on fait un passage de la maquette dans l'outil qui nous dit en vert tout est bon, en bleu il y a quelques erreurs, en rouge c'est pas bon du tout, c'est la vue macro. On rentre ensuite, et c'est plus intéressant, quand c'est pas bon, qu'est-ce qui va manquer. Donc typiquement, est-ce que les deux codes dont je vous ai parlé, de localisation et d'aspect technique, sont bien renseignés? Est-ce que les volumes sont bien renseignés, ou le linéaire, ou la valeur pertinente pour pouvoir faire notre analyse est renseignée? Et ensuite, ça va être, on peut avoir des compléments, on peut avoir le niveau de ferraillage qui peut être utilisé ou non. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Donc on met le doigt sur les erreurs, on peut rentrer dans le détail pour voir qu'est-ce qui est faux. L'intérêt de ce type d'outil, c'est que surtout quand il y a une erreur, on peut exporter un rapport en format PCF ou Excel, ce qui permet de redonner ça à la production pour qu'ils puissent revoir leur copie, corriger et refaire un cycle de vérification et de passage. Donc ici, tout ce qui est faux, c'est les amorces de tunnels et des équipements de grille, de ventilation qui n'étaient pas dans le périmètre de la mission. Donc ça tombe bien, c'était plutôt bien fait. Donc l'aspect BIM ayant été validé, on a recontrôlé les maquettes pour être sûr, pour s'assurer que toutes les données sont bien renseignées. Là, on va rentrer plus dans l'aspect paramétrage de l'outil. Donc pour assurer la jonction entre la maquette et la base de données, c'est assez complexe dans le nombre d'informations à saisir, c'est assez complet, mais c'est simple à faire. En fait, on va avoir une base de données. Donc là, on va suivre uniquement la paroi moulée, mais c'est pareil pour toutes les typologies que vous allez voir. Ce que vous voyez, c'est on va commencer par un composant, donc un composant paramoulé, c'est ce qu'on voit en vert qui a un code au sein de l'outil. Il est composé lui-même d'armature, puisqu'on parle d'un objet en béton armé. Donc il y a le composant à droite, c'est son ferraillage. Chacun de ces composants, comme c'est du béton, il a une formulation de béton, je ne l'ai pas définie, mais c'est pareil, chaque objet peut avoir plusieurs types de formulations. Et on va retrouver la combinaison de transport. C'est ce qu'on voit au-dessus, la combinaison de transport. Par exemple, on a considéré par hypothèse ici que le béton était véhiculé en poids lourd local et puis en poids lourd national. Enfin, dans l'autre sens, en national puis local. On aurait pu renseigner de l'acheminement par moyen ferroviaire, par péniche ou n'importe quoi qui corresponde à notre projet. Ce sont nos hypothèses qu'on va retenir pour un calcul. Une fois qu'on a défini ce composant, comment il arrive, qu'est-ce qu'il compose, on voit tout en bas le mapping de classification qui donc fait le lien entre le code de la paroi moulée qu'on avait vu tout à l'heure, ce qui correspondait à ce qu'on voyait en rose, et son code au sein de la base de données qu'on vient de faire pour faire l'association de l'un avec l'autre. Pour l'exploitation, tout se passe soit directement sur la base de données, soit par le biais de tableaux Excel qu'on peut exporter et réimporter, que ce soit pour mettre à jour ces hypothèses de travail ou pour exporter les hypothèses qu'on a utilisées dans le cadre d'un rapport. Donc c'est assez simple en termes de manipulation. Une fois qu'on a fait ça sur différents ouvrages, on peut compléter ces informations avec également des tableaux Excel s'il n'y a pas de maquette ou s'il y a des informations dont on ne dispose pas en format maquette numérique. Une fois qu'on a fait ça, on obtient un tableau de bord du projet. Donc là, on va voir, comme on est sur un projet de métro, on va parler des ouvrages annexes, on va parler des stations et des tunnels. Et là, tout de suite, on en arrive à ce qu'on présentait précédemment. Le but, c'est de trouver les points importants. Ici, on voit que les ouvrages annexes ne sont pas forcément la priorité en termes d'émissions carbone. Ici également, tout à droite, vous avez les différents points. Donc nous, on a travaillé dans le cadre de ce projet uniquement sur l'aspect matériaux. Donc ce sont les items A1 à A3 du cycle de vie. On a renseigné un peu de transport, mais c'était pas le cadre, donc il n'est pas très exploitable. Mais ça peut aller plus loin. On peut aller bien sûr sur une analyse complète et notamment sur l'exploitation, le remplacement des éléments, et ça va jusqu'à la déconstruction. En fait, l'outil permet d'aller jusqu'à ce niveau-là. Donc là, vous avez une première vue macro. Et ensuite, on peut rentrer... Donc là, on est plus dans du pilotage à l'échelle du projet, du périmètre entier. Et ensuite, par ouvrage, donc là, je vais revenir sur l'entonnement que je vous ai présenté tout à l'heure. On arrive sur des tableaux, le but étant de voir sur un set d'hypothèses. Donc à gauche, ce sont nos hypothèses initiales, qui était celle de 2018-2019 le plus possible. On voit typiquement, pour l'entonnement qu'on a présenté, les parois moulées représentaient la moitié pratiquement de l'impact carbone. Donc le but étant d'identifier les points chauds, comment avoir le maximum d'effet avec le minimum d'effort. Visiblement, si on peut faire quelque chose sur la paroi moulée, ça a l'air plutôt pertinent dans ce cadre-là. Donc c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on présente à droite, c'est par exemple, alors je suis désolé, pas de chiffres, mais je vous présente les ratios. On a remplacé simplement, à gauche on est sur un type de paroi moulée réalisé avec un béton standard, et à droite on a essayé une version avec un béton bas carbone, donc avec du laitier, qui est un élément de l'industrie de la sidérurgie. Et on se rend compte tout de suite de l'impact. Alors en termes de ratio, ça fait diminuer l'impact de la paroi moulée, sachant que les autres postes sont restés constants. Nécessairement, on vient de diminuer l'impact du projet. Ici, on a fait varier juste le béton et juste le béton de la paroi moulée pour que le scénario soit simple. Mais toutes les hypothèses qu'on a saisies précédemment, on aurait pu les faire varier. Ça aurait pu être comment on achemine les matériaux, ça aurait pu être le matériau en lui-même, ça aurait pu être la composition du ferraillage. Et c'était d'ailleurs ça le cadre de notre mission, c'était de voir est-ce que les hypothèses finalement retenues étaient challengeables, et on a fourni plusieurs analyses avec des variations pour avoir plusieurs scénarios à la Société du Grand Paris pour que leur réflexion puisse avancer sur ces sujets. Là, on est dans un cadre où c'est plus un instantané. On pourrait aussi tout à fait faire des variations plus en maîtrise d'ouvrage et dans un processus plus itératif. Et notamment, les maquettes sont elles-mêmes des hypothèses comme les autres. On peut, avec un même set d'hypothèses, changer une maquette et comparer, par exemple, une gare en béton armé par rapport à une gare en base de charpente métallique, et avoir, du coup, les différences seraient beaucoup plus importantes. Là, on n'avait que du béton, et on aurait un cas avec du béton et de la charpente métallique, et voir laquelle a le plus gros impact carbone à l'échelle de la gare ou à l'échelle du projet. Le but, c'est toujours de mettre ces choses en relation. L'objectif, clairement, c'est de faire un dialogue constant entre, comme un projet traditionnel, le coût d'une part, l'ingénierie d'autre part, il faut quand même que ça tienne, Et donc maintenant, on n'est plus sur un duo de solutions, finalement, on est vraiment sur un triptyque, en pouvant rajouter l'empreinte carbone au sein de ces enjeux de décision, et de pouvoir fournir surtout au pilotage, donc à la maîtrise d'ouvrage ici, des outils de pilotage pour pouvoir se rendre compte et prendre des décisions éclairées sur ce qu'on a fait. Voilà, si vous voulez nous retrouver, on sera au stand de 60 et je rends la parole.
Merci beaucoup. Alors, merci en tout cas pour cette présentation très... j'ai enlevé le masque. Présentation précise, hein, qui permet de fixer un peu le sujet, enfin, de visualiser un peu les efforts qu'on peut faire, les comparaisons possibles entre différentes solutions. On va passer maintenant à l'échelle des infrastructures de transport avec Eric Loquet du groupe Aegis et notamment un outil qui s'appelle VariWays. Je lance la présentation et Eric, je vous laisse tout de suite la parole.
Bonjour à tous. Bon, c'est l'occasion de tester le micro. Bien. Alors, je vais vous parler de VariWays, un outil au cœur de l'éco-conception qu'on a développé au niveau du groupe Aegis il y a une dizaine d'années et qui trouve tout son sens dans l'actualisation des projets qui sont réalisés de nos jours. Alors, l'éco-conception, c'est une réponse concrète et opérationnelle des ingénieries au défi de la préservation de l'environnement, évidemment, une prise en compte du contexte économique et social et la démarche nationale ERC pour éviter les impacts, évidemment, sur l'environnement, les réduire et les compenser. Il y a d'autres thématiques qui rentrent dans l'éco-conception, mais voilà. Alors, l'approche des gaz à effet de serre, ce qu'on a voulu développer, c'est développer un suivi des gaz à effet de serre de la conception à l'exploitation, en passant par la construction, donc sur toutes les phases de réalisation. Alors pour cela, donc, on a développé l'outil VariWays qui se cadre avec les ODD sur la lutte contre le changement climatique, le numéro 13. C'est un outil qui est labellisé par l'IDRIM et qui s'inscrit dans une démarche, qui s'inscrit également dans la démarche du groupe sur les évaluations environnementales pilotées par l'IDRIM. Alors ça, c'est un groupe qui vient de se reconstituer et qui a pour vocation de faire un petit peu un bilan des outils qui ont pu être labellisés. VariWays en fait partie, SEV en fait partie, il y en a d'autres, il y en a quelques-uns qui en font partie, et de voir un petit peu qu'est-ce qui manque au niveau des infrastructures linéaires pour pouvoir progresser dans le cadre d'une réduction des gaz à effet de serre avec un langage commun. Alors, VariWays, c'est un outil d'aide à la conception qui permet de comparer des variantes. Et la grosse particularité, qui est un de ses avantages, c'est qu'on peut intégrer tous les gaz à effet de serre pour les véhicules qui vont circuler sur l'infrastructure, donc sur la partie utilisation, exploitation, mais également quantifier tous les gaz à effet de serre pour construire l'infrastructure. Donc on a une vision globale. C'est également un indicateur au niveau des gaz à effet de serre qui nous permettent de remonter des informations sur la façon avec laquelle on prend la teneur de l'éco-conception. Et on l'a utilisé sur des projets en France et à l'international. Alors, ça c'est un des slides les plus importants. Donc on peut l'utiliser sur toutes les phases, phase amont, études détaillées, travaux. Suivant les informations dont on dispose, quand on est sur des phases amont, on n'a pas forcément le niveau de détail, évidemment, sur les différentes, sur les évolutions techniques du projet. On intègre donc l'exploitation, par exemple sur 20 ans, 50 ans, sur les véhicules qui vont circuler sur l'infrastructure. On va intégrer, en termes pour la construction, donc les terrassements. On va intégrer les natures de travaux, les chaussées. On va intégrer les équipements linéaires, que sont les dispositifs de retenue, tout ce qui est équipement métallique ou béton. Les ouvrages d'art et les ouvrages non courants, les murs de soutènement. On va intégrer également les viaducs et les tunnels. Dans les tunnels, on va avoir la particularité de distinguer ce qui concerne les usines de ventilation, les têtes de tunnels, le tube, Donc on a travaillé avec des gens qui ont travaillé sur la normalisation du GT41 sur la méthode d'évaluation des gaz à effet de serre. Et on intègre également l'assainissement pour pouvoir intégrer tout ce qui est assainissement linéaire, les cunettes, les fossés, les bassins, pour construire les infrastructures linéaires. Alors ce qui est important, c'est de, quand on va comparer des variantes, on va pouvoir faire des optimisations et on va pouvoir travailler sur des postes. Par exemple, les terrassements qui sont un des postes les plus émissifs. On va pouvoir travailler, par exemple, sur les pentes des talus de remblai. On va pouvoir jouer sur les teneurs en liant. On va pouvoir jouer sur la quantification des merlons. Si on fait des merlons, des écrans, on va pouvoir un petit peu jouer sur tous ces objets routiers pour voir un petit peu l'impact en termes de gaz à effet de serre. On a une interface graphique qui est plutôt conviviale, qui est utilisable en français et en anglais. Les histogrammes du bas à gauche représentent par exemple la comparaison sur trois solutions pour la phase d'exploitation. Et sur la droite, on va comparer la partie construction. On avait pris un exemple sur la RN 164, où on avait donc l'approche projet, on avait une section neuve avec trois variantes. Une section existante, et on peut comparer pour la construction donc les différentes natures de travaux. Par exemple, pour les terrassements, le premier jeu des trois colonnes, les chaussées, l'assainissement, les ouvrages d'art courant. Alors, on n'avait pas de viaduc, donc on n'avait pas d'ONC sur celui-là, on n'avait pas de mur, et la signal directionnelle. Donc, on peut comparer du coup en termes d'enjeux. Quel est le poids en termes de gaz à effet de serre par nature de travaux sur chacune des solutions? Évidemment, si on compare une solution, comme on le voit ici, si on compare une solution tunnel avec une solution contournement ou une solution montagneuse, on va avoir des différences. Évidemment, la partie tunnel, c'est celle qui sera la plus émissive sur la partie construction, mais sur la partie exploitation, c'est celle qui sera la moins émissive. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsqu'on appréhende les gaz à effet de serre avec VariWest pour la partie exploitation, on prend en compte le trafic qui circule sur l'infrastructure, l'évolution dans le temps du trafic, corrélée avec le parc routier, l'évolution du parc routier, les problématiques de saturation, les problèmes d'accordéon, et on prend surtout en compte que quasiment aucun des éco-comparateurs ne fait, c'est la géométrie de la route, c'est-à-dire qu'on prend en compte notamment le profil en long. C'est sur les profils en long, notamment les rampes, les fortes rampes supérieures à 3, 4, 5%, où les poids lourds vont émettre le plus. Et on a, en tant que généraliste sur l'éco-conception d'un projet, dire, bah tiens, à un moment donné, j'ai une rampe à 4%, si je la passe à 3%, quel est l'impact en termes de gaz à effet de serre sur 20 ans, 50 ans? Et on a tout de suite le gain en termes d'impact sur l'adaptation au changement climatique. On a la représentation sur une solution. Donc, de chaque nature de travaux sur la partie du haut, terrassement, chaussée, assainissement, et sur la partie du bas, on a comparé l'impact de la construction sur l'exploitation, par exemple sur 20 ans. On avait fait l'exercice sur A304 il y a quelques années. La construction de la 304, ça représentait 6 mois de mise en service. Donc là, c'est la comparaison pour l'exploitation, où on peut également intégrer donc sur la partie exploitation deux autres indicateurs. La consommation de carburant pour les véhicules qui circulent sur l'infrastructure. Et également, on avait approché une monétarisation qu'on pouvait corréler à un coût à la tonne de carbone. J'en ai bientôt terminé. Une évolution intéressante avec la méthode CEREMA, qui est sortie en 2019, sur laquelle on a donc une possibilité de rajouter certains éléments. Alors, la méthode CEREMA, qui est sortie en 2019, ne prend pas en compte toutes les natures de travaux que nous on prend. Par contre, il y a d'autres sujets qui ne sont pas pris en compte. Et il y a également d'autres outils qu'on peut utiliser lorsqu'on lance des appels d'offres sur, par exemple, les chaussées, et sur lesquels on peut demander à des entreprises de répondre sur un même outil pour pouvoir comparer, je dirais, l'impact chaussée, par exemple, voilà, sur un appel d'offres. Donc, VariWays apporte une réponse concrète et opérationnelle donc sur les infrastructures linéaires, routière, mais on pourrait aussi l'utiliser pour du rail sur la partie génie civil ou sur du canal également pour tout ce qui est partie linéaire. Je vous remercie.
Merci. Alors on peut peut-être applaudir nos trois intervenants pour leur présentation. Donc vous avez vu que maintenant qu'au niveau carbone, on a quand même des outils disponibles. Avant, on ne savait pas choisir entre différentes solutions. évaluer, je vais enlever le masque, ça ira mieux, c'est un peu fort quand même, évaluer différentes solutions et pouvoir choisir celle qui est la plus pertinente en carbone. Maintenant, on peut le faire. Alors, ces outils-là, ils vont progresser, bien sûr, mais ils sont déjà des outils intéressants pour des prises de décision sur des projets de quartier, des projets d'infrastructure. Voilà. Alors, je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser poser des questions si vous en avez par rapport à ce que vous avez vu ce matin. On fera passer un micro et on peut répondre à quelques questions. Alors, est-ce qu'il y en a ? Soit les gens... Il y en a une là-bas. Est-ce que j'ai une hôtesse qui peut m'aider pour le micro ?
C'est là, je crois. Là.
Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos présentations. C'était super intéressant. J'aurais une question concernant le projet Urban Print et l'utilisation de l'outil. Alors, vous nous avez dit qu'on se basait sur un projet de référence pour voir les émissions de CO2 sur un quartier. Est-ce que ce projet de référence est voué à évoluer pour correspondre aux différents émissions et paliers qui vont être donnés par les différents Grenelles de l'environnement, les différents RE 2020 et ce genre de choses, qui vont nous dire qu'en 2030, on doit avoir un tel impact de CO2, en 2050, ça va être encore plus bas. Et ainsi, pour un projet, pouvoir savoir si notre quartier va correspondre aux émissions pour une construction qui serait faite en 2030, mais qu'en 2050, là, on serait trop haut. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable avec ce logiciel ?
Oui, tout à fait. Donc, déjà, vous l'avez vu, on prend en compte la réglementation actuelle. Hein, donc là, on est sur la RE 2020. Pour les bâtiments. Et donc, on va pouvoir effectivement situer le projet par rapport à la trajectoire bas carbone française. Hein. Donc, c'est ce que je vous ai indiqué au début. Hein. Donc, passer de 10 à 6 et à 2 en 2050. Et donc, l'outil vous montre de façon d'ailleurs très visuelle si votre projet il est équivalent à ce qui devrait être. Enfin, à la trajectoire 2035, 2040, etc. Donc ça vous situe votre projet. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que un quartier, on le fait pour 100 ans. Donc il faut, une fois qu'il est construit, les marges de manœuvre sont faibles et il faut d'emblée savoir si on se situe compte tenu d'un certain nombre d'hypothèses hein, sur l'évolution des technologies, l'évolution des comportements, si on se situe le plus proche possible de l'objectif de neutralité carbone en 2050. Et donc, c'est visualisé, on voit exactement sur la trajectoire, est-ce qu'on est 2040, 2035, compte tenu de la trajectoire officielle de la France, qui va encore évoluer l'année prochaine avec la version 3 de la stratégie nationale bas carbone, mais le résultat est le même.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non ? Là-bas derrière, non ? Ok. Bah, écoutez... Merci à vous. De nouveau, merci aux intervenants qui ont tenu le défi de synthétiser leurs propos en 10 minutes pour avoir ces infos les plus rapides et les plus synthétiques possibles. En tout cas, je vous souhaite une bonne suite de salons. N'hésitez pas à participer aux différentes conférences, à visiter les stands.